Mais évidemment, bon, depuis ce combat dans la nuit de samedi à dimanche où le boxeur de chez nous, Adonis Stevenson, a été mis KO, vous avez vu ça peut-être. Si vous ne l'avez pas vu, on a justement un extrait, vous excusez, c'est en anglais bien sûr, parce que les droits sont détenus. Est-ce qu'on l'a en français? On l'a en français. Alors voici l'extrait de ce match de samedi soir.
Encore une fois, Stevenson est dans le trouble! Il est dans les cordes! Faut sur les chaînes! Il est au tapis! Stevenson, c'est terminé!
Stevenson, c'est terminé. Vous voyez, l'excitation était palpable. Malheureusement, ça a fait place tout de suite à une immense inquiétude qui tient d'ailleurs toujours depuis un peu tout le monde, tous les fans en haleine, parce que Adonis Stevenson est dans un coma en ce moment. On semble vouloir dire, Paul Arcand faisait une entrevue ce matin avec un médecin, pas le médecin de Stevenson, mais un médecin spécialiste de ce genre d'intervention. Il disait que on allait le maintenir dans ce coma d'ici la fin de la semaine, qu'on verrait un peu quel est son état. Toujours est-il que nous, on voulait revenir sur ce sujet-là. Vous savez que j'en parle souvent parce que ça me préoccupe profondément. J'ai déjà eu des enfants qui ont fait des sports et pour les avoir... vu eux-mêmes faire des commotions cérébrales, pas énormes, mais une, entre autres, en wake pour ma fille Laura. C'est un sujet d'inquiétude chez les parents. Évidemment, chez les sportifs, c'est quelque chose qui est présent. Et depuis, depuis samedi, on le rappelle, boxer comme le hockey, comme le soccer, c'est pas sans risque. Et encore plus vrai peut-être pour les boxeurs professionnels comme Stevenson. Mais est-ce qu'il n'y a pas des questions majeures qu'on devrait poser? Il y a 6 mois, on en parlait ici à cette émission avec Dave Ellenberg, qui est un spécialiste de la question des commotions cérébrales et qui en appelait au gros bon sens, qui en appelait à ce qu'on fasse quelque chose, qu'on protège mieux la tête, même que dans certains sports, il est même d'avis qu'on devrait abolir les coups à la tête pour éviter les commotions cérébrales. Il y en a de plus en plus. Je vais vous présenter notre panel pour en discuter ce matin de cette question-là, puis j'ai hâte de vous entendre, vous, là-dessus. Philippe Fay est thérapeute de sport spécialisé en commotions cérébrales. Il a fondé la clinique Cortex. Merci, Philippe, d'être avec nous ce matin.
Merci de l'invitation.
Jérémy Filosan était justement à ce match de Québec, samedi. T'as vu ce qui s'est passé live,
absolument,
comme on dit? Il y avait,
absolument,
ton fils. C'était,
oui,
son premier match de boxe à ton fils de 10 ans.
Oui.
Ça a dû.
Ben écoute,
ça
je pense qu'il
frapper.
Il est peut-être pas aussi conscient que le monsieur, madame, tout le monde là, qui suit les nouvelles à tous les jours, là, mais il me pose la question à tous les jours, est-il encore dans le coma? Est-il encore dans le coma? Puis c'est drôle parce qu'en s'en allant vers le combat, il m'a dit, tu sais, j'ai peur. J'ai peur, puis parce que dans la semaine, il m'avait posé des questions sur la boxe, puis est-ce que des fois, il y a des blessures? Est-ce que des fois, il y a des boxeurs qui meurent? J'ai dit, oui, ça arrive. Puis là, il a dit, je suis pas sûr que je veux y aller, j'ai peur. Puis j'ai dit, ben non, ça va bien se passer, inquiète-toi pas. Finalement, je pense qu'il a été plus emporté par les lumières et tout ce qui se passait dans l'amphithéâtre que par le moment où Adonis, lui, bon, il a vu qu'Adonis a perdu, puis ça reste là. Il était pas là dans l'arrière-scène.
Ouais. As-tu regretté avoir ton fils de 10 ans avoir un match de boxe
comme pas planifié. Ça a donné comme ça parce que finalement...
T'avais pas de gardien?
C'est, je vais pas l'avoir pour le week-end. Puis là, ouais, il y a eu un revirement de situation, mais c'était pas planifié. Mais
c'est quand même violent, on s'entend. C'est de bonheur 10 violent. Ans pour assister à de la violence comme
c'était
ça.
C'était pas prévu, ouais, disons. Ouais. C'était pas le plan. Là.
Ali Nestor connaît bien le milieu. C'est un ancien athlète professionnel, entraîneur en sport de combat. Merci beaucoup, Ali, bonjour, d'être avec nous ce matin.
Merci.
C'est toute une industrie, Ali, c'est ton industrie, évidemment, comme ancien boxeur, ancien athlète de ce sport-là. Est-ce que quand tu vois des Stevenson, mais il y en a eu quelques autres aussi, est-ce que ça remet en question le sport pour toi? C'est ce qu'on fait un peu depuis 2 jours, puis ça paraît tellement gros de dire, on va-tu interdire la boxe? Il me semble qu'on... T'sais, on passe d'un extrême à l'autre. Comment tu vois ça?
C'est sûr que ça peut remettre certaines questions, mais annuler ce sport, interdire ce sport, je ne pense pas. Mieux le réglementer. Regardez, il fut un temps, voilà, peut-être 20-25 ans en arrière, ouais, c'était des rounds de 15. On faisait 15 rounds.
Ouais.
Donc, on a baissé ça à 12, justement, au niveau de la sécurité de l'athlète. Donc, peut-être qu'il y a certaines choses qu'il faut revoir, oui, pour protéger l'athlète, mais si on décide de bannir ce sport se fera tout simplement de façon underground. Donc, il y a une régie qui est là pour protéger les athlètes du mieux qu'ils peuvent. Il y a des arbitres qui sont formés pour protéger les athlètes. Donc, il y a aussi la responsabilité de l'athlète, bien sûr, mais il faut penser aussi que ce sport-là, lorsqu'on parle de KO, il n'y a aucun athlète qui décide de rentrer dans un ring pour détruire son adversaire, pour l'envoyer à l'hôpital.
Non, mais ils veulent mettre KO.
Non, le but, c'est de gagner. OK? Qui veut
mais
voir
par un... KO?
Non.
Même pas?
Non. Qui veut voir un KO, c'est surtout le spectateur.
Ouais.
C'est les gens qui sont alentour. Voyez-vous, moi, pour avoir compétitionné moi-même, j'ai jamais eu autant de demandes pour tuer quelqu'un qu'en étant dans un ring. Parce que tous les spectateurs qui sont autour, on les entend crier.
Absolument.
Tue-les, arrache-lui la tête, mets les KO.
C'est drôle que tu dises ça.
Tue-les.
Oh oui, oui, parce que justement, samedi, mon fils entend un spectateur juste derrière lui dire, tu sais, tue-le. Et là, mon fils, il réagit en voulant dire, est-ce qu'il vient vraiment de dire ça? Puis il répétait. Ouais. Il répétait. Et là, tu dis, mais voyons donc, ça n'a aucun bon sens. On ne respecte pas l'art du sport, de la boxe, mais on en entend beaucoup, c'est fréquent.
Souvent, on dit que c'est un sport de barbares, mais pourtant, la barbarie, elle est plutôt dans les estrades, parce que c'est eux autres qui demandent à ce que l'athlète fasse une boucherie, quoi.
Incroyable, Philippe Fay. Vous qui êtes pour un meilleur encadrement dans les sports de combat, dans tous les sports en général, quand vous entendez ça, tuez-les!
C'est sûr que ça vient
le pire, c'est que c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe.
Oui, tout à fait. Puis pas juste à la boxe, je crois. Mais moi, ça vient vraiment me chercher tout ça parce que moi, mon quotidien, c'est de voir des patients qui sont atteints de commotion, qui sont atteints de commotion des fois à l'état chronique, donc avec des plusieurs années même avec des symptômes. Puis je reviens un peu sur le fait des boxeurs qui disent que le but n'est pas nécessairement d'infliger un KO, mais la meilleure façon de gagner, c'est de faire un KO. Donc, s'il n'y a pas de KO, c'est plus difficile.
Aux yeux du spectateur et aux yeux du promoteur.
Mais Adonis, son slogan, c'est « knockout sell ». C'est ça qu'il dit toujours.
Tout le temps, mais
Adonis, comment tu veux gagner ce combat-là? Par KO, knockout sell.
La majorité des boxeurs, je pense.
Le deal, c'est pour vendre des billets. Attention, s'il le dit, c'est pour vendre des billets, pour attirer des gens. Parce qu'il y a un spectacle qui est autour. Donc, le boxeur qui est neutre, exemple, ça a pris du temps, exemple, pour quelqu'un comme Joachim Alcine pour se faire connaître, parce que c'était quelqu'un qui était très passif. OK? Donc, on lui demandait toujours de faire un show. Donc, lui, ça a pris du temps pour lever sa popularité, contrairement à des gars comme David Hilton, exemple, comme à ce moment même, exemple, David Lemieux, parce que lui aussi, David Lemieux, à chaque fois qu'on lui demande qu'est-ce qui va se passer, je vais le mettre KO. Et pourquoi? Parce que les gens aiment ça.
Mais aussi parce que ça assure la victoire. Et la victoire amène beaucoup de dollars aussi à la fin de la journée.
On entend souvent des boxeurs dire « Je veux pas laisser ça dans les mains des juges. C'est moi qui vais s'en occuper. » C'est-à-dire « Je le finis, puis c'est game over. Je veux pas attendre que les juges décident à la fin « C'est lui qui a gagné, c'est moi qui ai été le meilleur, c'est lui qui a été le meilleur. » Parce que c'est subjectif. Donc, si tu gagnes par KO, ça règle le cas immédiatement.
Le gars, il est à terre, puis il se lève plus.
Ben, c'est ça, exactement. Clair. Et je veux dire, j'ai jamais vu un entraîneur que son boxeur passe le KO à son adversaire, puis il est déçu. Moins, des fois, il dit « J'essaie de faire des rounds, mais c'est rare. »
Mais tu dis, Ali, c'est pas le boxeur qui veut ça, c'est le spectateur et c'est le promoteur.
Le promoteur, parce qu'il vend quelque chose. Il y a une industrie qui gère énormément d'argent. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on devrait interdire les coups à la tête? Si on les interdit, est-ce que le spectateur sera encore intéressé à dépenser 200 $, dépenser 1 000 $ pour venir regarder ce spectacle?
C'est ça le point. Ah ben oui, autour du ring, les gens...
Moi, je ne vais pas là-bas.
Une table autour d'un ring, ça peut coûter 10 000.
10 000 piastres.
Absolument. C'est une table de 8, ça coûte 10 000. Mais là, tu as le souper inclus, mais bon, on s'entend, là, c'est 10 000 $ quand même. Mais son point est excellent, parce que plusieurs disent, est-ce qu'on ne devrait pas amener le casque dans la boxe professionnelle comme on le fait à la boxe olympique?
Ouais, mais là-dessus,
mais on ne le fait plus à la boxe olympique, justement. Depuis les derniers Jeux olympiques, on a enlevé le casque pour que ça puisse ressembler aux professionnels. Parce qu'il n'y a pas une grosse assistance qui va regarder ces matchs-là. Donc, on veut attirer plus de monde aux Jeux olympiques.
Oui, puis je pense qu'il y a la loi, c'est 18 ans et moins. En amateur, tu es obligé d'avoir un casque.
Oui, bien, il y a ce qu'on appelle maintenant, non? Il y a classe ouverte.
Lorsque tu deviens classe ouverte,
on enlève le casque.
Mm-hmm. Mais toi, par exemple, toi, tu as un ring. Je suis allé dans tes installations. C'est un vrai grand ring. On a même fait... On fait
du sparring.
Oui, on fait toutes sortes de choses dans ce... Non, mais on a fait des campagnes de financement pour aider Ali et les princes de la rue. Il faut quand même le rappeler, ton œuvre... sociale, qui est de réinsérer des jeunes qui sont pas forcément nés avec une cuillère dorée dans la bouche, des jeunes qui ont besoin d'un grand soutien. Ouais. Et toi, t'es là, Ali, justement, parce que t'es passé par là, puis par la boxe. Faut quand même le rappeler, ça, que la boxe aide beaucoup de jeunes défavorisés. Ben, Stevenson,
c'est un exemple de ça. Avec la boxe.
C'est un exemple de ça. Exactement.
Je pourrais extrapoler, pas juste la boxe, l'activité physique.
Exact.
Parce que on pourrait extrapoler ça au football. Le football, il y a quelques années au Québec, était presque inexistant, à part dans les universités anglophones. Et maintenant, ça raccroche beaucoup les jeunes décrocheurs parce qu'il y a un sport, alors que le football aussi, il y a beaucoup de commotions cérébrales. Donc, c'est pas juste la boxe, même si la boxe va chercher certaines personnes. C'est, je pense que c'est l'activité physique. Et il ne faut pas faire une croix là-dessus non plus. L'activité physique est super importante pour le développement cérébral. Ça aide au développement du cerveau, mais ça aide aussi à l'environnement social. Les gens vont aller autour d'une cause sportive, que ce soit la boxe, que ce soit le football, ou même des sports qui sont moins violents en tant que tels.
Mais c'est fou comme on vient vite. Moi, je parlais tout à l'heure aux auditeurs en disant que moi, j'ai vu en wake, là, par exemple, on en a fait beaucoup. On peut se faire vraiment mal aussi. Là. Nous, on aime beaucoup les sports nautiques dans la famille. Puis, sincèrement, mes enfants ont fait du wake, du ski nautique. Moi, j'ai fait la plongée. La plongée, c'est dangereux, la plongée sous-marine. Là. Pas l'apnée. Là. La plongée sous-marine bonbonne, ça peut être risqué comme sport, on le sait. On
même
sait
la
que
nage synchronisée, c'est risqué parce que, surtout en groupe, là, on peut avoir des coups de pied de ses adversaires. Donc, les gens pensent que la nage synchronisée, c'est dans l'eau puis c'est très technique, mais il y a aussi des commotions cérébrales dans la gymnastique quand ils atterrissent sur les pieds, par exemple, ils font des atterrissages. L'énergie traverse la boîte crânienne et ça provoque une commotion. Donc, on parlait des casques tout à l'heure au football ou même à la boxe. Ça fait aucune différence. Le cerveau est protégé dans la boîte crânienne. C'est une substance qui est molle. Donc, la tête va bouger violemment. Il va y avoir une commotion quand même. Les casques au football, par exemple, c'est pour protéger une fracture du crâne. Mais en termes de commotion, ça ne protège pas. Donc, même chose à la boxe. Là, les gens même, j'ai un entraîneur de boxe que je connais qui me disait, quand on met des casques à la tête aux jeunes qui s'entraînent, parce que maintenant, il y a quand même des enfants qui font de la boxe, les jeunes pensent qu'ils sont protégés, ils vont même frapper plus fort ou se protéger moins parce qu'ils ont un casque. Puis ça provoque aussi des commotions. Donc, le casque, je pense, c'est pas l'enjeu
pour
ici.
Pour vous, c'est pas...
Non, pour moi, c'est les coups à la tête direct. Un coup direct à la tête égale plus de risque d'avoir une commotion versus des coups indirects comme dans d'autres sports.
Bien, ça m'amène à poser la question donc de cette première heure d'émission à nos auditeurs. Est-ce qu'on devrait, d'après vous, abolir les coups à la tête dans ce genre de sport, dans les sports comme la boxe, mais dans d'autres sports également, pour éviter les commotions cérébrales? On dirait qu'il y en a plus, en tout cas, on en parle plus. Il y a certainement une conscientisation. Mais est-ce que c'est par l'abolition des coups à la tête? Ce qui est quand même assez fascinant, il y en a qui faisaient référence à ça, d'ailleurs, au cours des derniers jours. Au hockey, par exemple, on interdit les coups en bas, dans la laine. C'est une blague.
Ah oui, quand on sort le genou, on est dévasté.
Exact.
Ah, il sort le genou.
C'est ça, exact.
C'est la fin du
en
monde.
Bas du corps, tu n'as comme pas le droit. Mais dans le haut, sur la tête, ça, tu as le droit. Vas-y. Il y a quelque chose de pas cohérent là-dedans. Alors, j'ai hâte d'avoir votre opinion là-dessus. 514-790-9850. 1-866-790-9850. Est-ce qu'on devrait abolir les coups à la tête dans les sports pour éviter les commotions cérébrales dans la grande région de Montréal? Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850, le 1-866-790-790-9850 pour que nos auditeurs puissent intervenir, comme Simon d'ailleurs. Bonjour Simon.
Bonjour, ça va bien?
Oui, votre opinion là-dessus?
Ben écoutez, moi, dans le fond, je suis un ancien joueur de football. J'ai joué au football universitaire, puis j'ai joué dans la CFL pendant 4 ans. Donc, les coups à la tête, là, je connais un peu ça. J'en ai eu des commotions cérébrales qui ont été diagnostiquées et non. Puis c'est assez sensible. T'sais, j'écoutais les intervenants, puis moi, je suis pour abolir les coups à la tête, mais ceux qui sont plus, désolé l'anglicisme, là, mais des cheap shots, parce que à la fin de la journée, je veux dire, les coups à la tête, c'est un peu inévitable dans des sports de contact.
Ouais.
Fait qu'il faut pas non plus devenir fou avec cette idée-là, là, mais... T'sais, je vais prendre mon exemple au football, là, quand vraiment on enligne un joueur qui ne voit pas arriver, puis ça ne change pas, dans le fond, le jeu en tant que tel. Là, ça, c'est ce genre de coups-là, on peut les abolir, mais en général, je veux dire, c'est des sports de contact. Les athlètes, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Surtout aujourd'hui, c'est tellement médiatisé. Les joueurs sont tellement conscients des commotions cérébrales. Puis je veux dire, en tant qu'ancien athlète, là, on est au courant que ça affecte notre santé. Puis je veux dire, il y a même des joueurs que même en ayant eu des commotions cérébrales, ils veulent jouer avec parce que c'est des athlètes, ils veulent performer.
Ouais.
C'est tellement un sujet touché, puis il n'y a pas de solution miracle, puis il n'y a pas de n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, là, si on veut.
Ouais, puis le point que le point que vous amenez aussi, puis on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est que c'est pas nécessairement le coup à la tête. Des fois, au hockey, moi je couvre le Canadien, le joueur, c'est un joueur qui s'en vient en trombe et qui te frappe au niveau du thorax. Là, il y a pas de coup à la tête, mais la tête donne violemment vers l'arrière, ouais. Alors que l'athlète tombe sur la glace et l'impact, c'est comme dans le fond, c'est le whiplash,
oui, là, c'est comme dans le coup un accident du lapin, d'auto. Là, finalement,
donc ouais. Le cerveau qui se balance dans ton crâne fait en sorte que bon tu te retrouves avec des lésions, ouais. Puis c'est aussi pire là.
Mais j'aimerais revenir sur l'intervention de Simon qui a joué dans la CFL, donc un athlète de haut niveau. On voit aux États-Unis le football qui est le sport national, ouais. Il commence à changer les règles, notamment dans les entraînements, il y a moins d'entraînement avec des casques, ouais. Parce qu'encore une fois, quand tu mets des casques et épaulettes, parce que les gens quand ils ont des casques, des épaulettes et équipement complet, frappent plus fort, vont faire plus de contacts. Et ils ont commencé à apprendre à faire des tacles. Donc, comment aller tacler ton adversaire selon les mêmes techniques que le rugby. Au rugby, il n'y a pas d'équipement du tout. Puis, il y a quand même des commotions, mais il y en a beaucoup moins qu'au football où c'est un sport de collision. Ils font face à face. Donc, si on joue sur les règles, donc ici, au football américain, on parle de moins de contacts dans les pratiques. Puis même, ils ont fait des études scientifiques qui ont montré que dans les matchs de la NFL, ça n'a pas changé la vision du jeu. Les gens, les spectateurs ne voient pas la différence entre les entraînements d'avant qui étaient plein contact tout le temps, puis maintenant, il y en a beaucoup moins de contact, puis c'est vraiment régulé. Puis ils ont même mis ça chez les jeunes. Donc, en changeant des règles, on voit les commotions cérébrales diminuer. Puis, par la même occasion, on regarde au taekwondo, où les règles ont changé, en sport de combat. Il y a quelques années, quand on touchait la tête, pas assommer l'adversaire, juste toucher la tête, ça donnait un point. Maintenant, ils ont changé les règles. C'est 3 points quand tu vas toucher la tête. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne suis pas un spécialiste de taekwondo, mais quelqu'un m'a dit récemment, maintenant, même si tu frappes avec ton pied, tu as encore plus de points. Mais ce qu'on a vu avec ça, c'est que c'est un sport olympique. On a toutes les données, toutes les années, donc c'est intéressant. On a vu que les commotions cérébrales ont monté en flèche quand ils ont changé ce règlement-là. Alors que la règle n'est pas d'infliger un KO, n'est pas d'infliger une commotion. C'est si tu touches la tête, tu as 3 points. Bien là, les commotions cérébrales ont monté en règle. Donc, quand on joue avec les règles, on voit que ça a un impact direct sur les
commotions. La règle devrait être de ne pas toucher la tête, logiquement.
Sauf que ça va toujours arriver. Ouais. Même
c'est
au hockey,
sûr que ça peut arriver.
On peut dire, t'as pas le droit, mais dans le feu de l'action, ça peut arriver quand même.
Ben donc, oui, on a Benoît avec nous. Bonjour, Benoît.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, ce que je pense surtout, c'est à l'après-carrière. On regarde Mohamed Ali, comment est-ce qu'il a terminé sa vie, Parkinson, puis il était complètement off. Il y a des joueurs de hockey.
Dire que Mohamed Ali, c'est pas la boxe qui a créé le Parkinson. OK, il l'avait déjà. Donc, sauf que la boxe l'a entraîné à l'avoir plus vite. Tout simplement, mais c'est pas la boxe qui a causé le Parkinson à Mohamed Ali.
OK. Puis on pense aussi, il y a le lutteur Chris Benoit qui a assassiné sa femme. Il y a combien de joueurs de hockey, des anciens bagarreurs qui sont décédés parce qu'ils ont complètement perdu la carte. Et c'est toutes des choses qui sont reliées aux commotions cérébrales.
Mais les ligues, encore une fois aujourd'hui, la Ligue nationale, au moment où on se parle, le commissaire n'a toujours pas avoué qu'il y avait un lien direct entre les commotions cérébrales à répétition et la maladie de CTE qui mène au Parkinson's, qui mène à plusieurs autres maladies, dont la dépression, la démence et tout ça. Ouais. Mais bon, Gary Bettman, c'est un avocat. Donc lui, là, la dernière affaire qu'il veut faire, c'est avouer qu'il y a un lien entre les deux. Mais la réalité, c'est que c'est ça.
Oui. Benoît,
J'avais juste une petite question pour M. Filosa. Le soccer, là, moi, je n'y connais pas grand-chose, mais quand il donne des coups de tête sur le ballon, ça peut affecter aussi.
Mais on dit même que le soccer, moi, j'avais lu ça, Jérémy, merci Benoît, que le soccer était le sport dans lequel il y avait le plus de commotions cérébrales.
Ben, pendant longtemps, là, il y a des professeurs de soccer qui disaient, bon, on pratique aujourd'hui le coup de tête. Fait que là, toi, t'allais à
le
pratique.
Coup de boule,
Puis là, tu frappais le ballon avec la tête 50, 70 fois pour pratiquer. Mais aujourd'hui, on fait plus ça. Ouais. Je veux dire, premièrement, quand on pratique le coup de tête, on y va avec des ballons qui sont très légers, très souples pour protéger justement la tête. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, on essaye d'améliorer les techniques, les règlements et tout ça, mais je me souviens qu'il y a une couple d'années, OK, moi je couvre beaucoup d'événements sportifs, puis là, il y avait un livre qui avait été lancé ici à Montréal sur l'histoire de la boxe. Et on avait invité plusieurs anciens qui étaient là pour répondre aux questions des journalistes. Donc, moi, j'arrive là en me disant, je vais rencontrer toutes ces légendes de la boxe. Ben j'avais l'impression de rentrer dans un centre gériatrique parce que la majorité d'entre eux n'étaient pas capables de
le
donner.
Il était là, mais il n'était pas là.
Puis il y en avait une douzaine, puis il y en avait à peu près neuf qui n'étaient pas capables de nous parler.
J'ai une petite anecdote là-dessus, sur, pas sur le livre, mais sur les boxeurs.
La démence du boxeur.
En fait, pas nécessairement la démence du boxeur, mais on fait des expertises des fois chez les boxeurs à la clinique. Puis, on peut pas se fier sur les échelles normatives de monsieur, madame, tout le monde, parce que souvent, les boxeurs ont des niveaux beaucoup plus bas au niveau cognitif quand ils sont pas commotionnés, là, quand ils sont encore en train de se faire évaluer pour un combat, par exemple, ou un après-combat. Même s'ils n'ont pas de commotion, leurs niveaux d'équilibre, par exemple, sont beaucoup plus faibles que monsieur, madame, tout le monde, la norme, entre guillemets. Donc, pour les boxeurs, ça prend des normes différentes. Puis dans toute la littérature scientifique, quand on parle de commotion cérébrale, en général, on parle de tous les sports, sauf la boxe, parce que la boxe, c'est toute une littérature complètement à part, parce que les symptômes sont beaucoup plus graves.
Le fameux
sont beaucoup plus
punch drunk syndrome.
Ça a commencé avec ça, le punch drunk syndrome. Mais il y a une littérature scientifique complètement juste sur la boxe. Puis on peut pas mélanger ça avec une commotion cérébrale identique au soccer, par exemple,
ou
même
dans d'autres sports.
Parce que à la boxe, il y a un effet décuplé, c'est qu'il y a des multiples coups à la tête. Même quand il n'y a pas de commotion, il y a des impacts sous-commotionnels qu'on voit aussi un petit peu au football quand ils vont à répétition se frapper les uns les autres.
Je sais que malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas encore capables de détecter la maladie de CTE avant que le patient soit décédé. Mais on avait un espoir là, à l'Université de Boston. Ils pensaient avoir une machine capable de le détecter alors que le patient est encore vivant. Ça n'a pas fonctionné malheureusement, mais éventuellement, ça va venir.
Et c'est pour ça qu'il y a des athlètes qui donnent leur cerveau à la science pour essayer de faire avancer un peu les recherches.
On parle ici de diagnostic, donc dire après le décès de la personne, on va avoir une autopsie, puis dire, bon, il y avait l'encéphalopathie traumatique chronique, mais on est capable d'établir un tableau clinique, de voir comment la personne agit, le type de symptômes, souvent il va avoir de la démence, des fois il va avoir de l'irritabilité. Souvent la famille ne reconnaît plus l'athlète.
C'est ça. Mm-hmm.
Donc à long terme, on est capable de faire un tableau clinique, puis on n'est pas capable de dire à 100% de dire ben, c'est l'encéphalopathie traumatique chronique, mais si on regarde le tableau clinique, c'est possiblement ça.
On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va prendre des nouvelles de Djihad Cabbage. On lui avait parlé il y a 6 mois à peu près quand on a parlé la dernière fois des commotions cérébrales. Il a eu 4 commotions au cours de sa jeune vie. Djihad, c'est un escrimeur à la retraite. Il a pratiqué ce sport, l'escrime. On s'imagine pas que l'escrime peut vous donner des commotions cérébrales. Fait que dans la catégorie, tu vois, personne n'est à l'abri de rien. Aucun athlète peut être exempt d'un coup à la tête mal porté. Il est aujourd'hui, pour des raisons de blessure, un peu en marge. Il va nous dire comment il se sent et surtout qu'est-ce qu'il pense de ce qui est arrivé à Stevenson. À tout de suite, tout le monde. On va parler tout de suite à Djihad Cabbage. Bonjour Djihad, on voulait prendre de tes nouvelles aujourd'hui puisqu'on parle à nouveau de l'impact de la commotion cérébrale pour un athlète ou dans la vie en général. Puis toi, dans ta vie, ça a eu un impact assez évident. Tu as eu 4 commotions cérébrales, tu as eu des accidents de voiture qui en ont causé. On parlait du coup du lapin tout à l'heure avec mes invités, mais tu as aussi, étant donné que tu es un jeune escrimeur, tu as aussi subi ça. Par rapport aux coups portés à la tête dans les sports, comment tu vois ça? En escrime, par exemple, les gens sont étonnés de voir que même en escrime, il peut y avoir des commotions cérébrales.
Ben, tout à fait. En fait, comme tu l'as si bien dit, personne n'est à l'abri. En fait, personne n'est exempt d'avoir une commotion cérébrale, c'est qu'on peut en avoir en marchant dans la rue, en un accident d'auto, en sport. En fait, dans l'escrime, concernant les coups portés à la tête, considérant qu'on porte un masque, et que le coup à la tête est un coup assez prisé en escrime. Personnellement, je pense pas que ce soit la solution d'abolir les coups portés à la tête, parce qu'il y a certains sports, admettons, comme vous avez si bien dit, des sports de combat, des pugilistes comme des boxeurs, des athlètes de taekwondo, du karaté, ainsi de suite. Les sports sont basés autour de coups portés. Et puis si on abolit un coup, c'est assez important, comme vous l'avez dit, ça donne 3 points. Donner un coup à la tête.
Au taekwondo, mais est-ce que c'est pareil en escrime?
Non, en escrime, chaque coup porté donne exactement
le même nombre de points,
exactement. C'est 1 point par point. Par contre, en même temps, les accidents que moi j'ai eu en escrime sont très peu fréquents. Des coups de coquille au visage, ça arrive. Par contre, des commotions qui en découlent sont peu fréquentes. J'ai la regrette que j'étais un peu moins chanceux. Mais par contre, si tu considères un sport comme le football, un sport de gros contact comme le hockey et tout ça, moi, je pense pas que l'abolition soit propice, parce que tu annulerais, en fait, tu abolirais des sports qui, qui a des milliers et des milliers d'athlètes.
On enlève le fun. On enlèverait le fun pour toi, là.
Un peu. Ouais. Exactement. Par contre, ouais. selon moi, dans les sports qui n'ont pas besoin de contact, qui sont pas des sports de combat, en fait. Donc, le hockey, le football. Mm-hmm. Moi, je pense qu'une, une supervision plus accrue devrait être, envisagée. On va te prendre l'exemple de la Dennis Stevenson. C'est triste qu'il arrive, moi, je comprends pas qu'on ait attendu jusqu'au 11e quart, 3 minutes dans le 11e quart pour arrêter le combat alors qu'il était quasiment plus conscient et qu'il était dans un état lamentable déjà à ce moment-là. Alors que si on regarde le combat, il a faibli. On a remarqué une faiblesse de sa part plus tôt dans le combat, mais on a décidé de
continuer parce qu'il était pas KO encore. Ouais. Ben, et c'est pour ça que dans les heures qui ont suivi, la première chose qu'on a vue, c'est toute l'industrie et le promoteur expliquer et l'arbitre que tout avait été fait dans les règles. Donc, mais je veux revenir avant qu'on se laisse à Jihad sur ton état de santé parce que bon, t'as quand même dû annuler 2-3 sessions scolaires à cause de tes commotions. Là, il faut que tu prennes le temps de bien guérir. Quand tu étais venu, on t'avait fait rencontrer le docteur Dave Ellenberg qui a analysé ensuite tes capacités cognitives, mémoire et tout ça. Comment tu vas aujourd'hui?
Ben aujourd'hui, franchement, grâce à Dieu, je vais mieux. Je vais mieux dans le sens que je sais au moins que la diminution que je note dans ma mémoire ou dans mon affectabilité, dans mon irritabilité, ainsi de suite, dans mon manque de sommeil, ne sont pas dues à des séquelles de la commotion. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que dans le sens, moi, je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir retourner à l'école. Mmh. Puis je me disais, tu sais, si mes capacités cognitives sont atteintes, si je suis diminué psychiquement et mentalement, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de réussir à l'école. Par contre, le test, l'évaluation neuropsychologique complète que le docteur Ellenberg m'a faite et qui d'ailleurs je suggère et je recommande à tout le monde qui a des commotions cérébrales, franchement, n'attendez pas le système de santé publique, vous n'allez rien avoir comme réponse.
Ouais.
Ça peut être un peu dispendieux parce que c'est au privé. Par contre, ça permet de donner une réponse précise, complète aussi, et de donner des recommandations pour le futur. Donc, moi, en ce sens-là, personnellement, je vais mieux dans ma perception du futur et dans la perception de ma guérison future. En fait, j'avais décidé à la base de me réinscrire à l'école au mois de janvier parce que je pensais être en état d'y retourner. Par contre, suivant la rencontre que j'ai eue avec le docteur Ellenberg, il a été plus efficace pour moi, en fait, de décider de ne pas retourner à l'école pour prendre plus de temps.
Il t'a dit de prendre plus de temps, c'est ça. C'est un long processus de retour à la guérison, là, finalement.
Ben oui, bien sûr. Moi, il m'a dit, écoute, il m'a dit, je te dis pas de pas retourner à l'école. Il m'a dit, je te suggère fortement de prendre le temps de consulter un psychologue, de consulter un neurologue, de consulter des spécialistes qui vont vraiment t'aider à guérir. Et parce qu'à un moment donné, si tu retournes à l'école, tu es rendu à la mi-session, tu dois abandonner parce que tu n'es plus capable de gérer ton stress, ton temps, tes émotions.
Ouais.
Si c'est trop, ben, tu vas pas vouloir retourner à l'école.
Ouais. Jérémy, philosophe, vous laissez
juste
parler à Jérémy.
Sur les coups à la tête, on parle, est-ce qu'on abolit? Je pense qu'il faut vraiment traiter différemment les athlètes adultes, professionnels et les jeunes. Parce que, selon ce que je comprends, c'est que jusqu'à l'âge de 19 ans, le cerveau n'est pas complètement développé et ne remplit pas complètement la boîte crânienne. Donc, lorsque l'impact arrive, le cerveau frappe les parois du crâne et c'est multiplié. Donc, le danger, il est beaucoup plus rapide et pour avoir lu plusieurs exemples
mais c'est l'expertise
de,
de Philippe Fed, mon invité.
Si tu peux nous en parler. Mais en fait, le cerveau va se développer même jusqu'à la mi-vingtaine.
25 ans.
Oui, environ. Donc, dans votre cas, vous, il est encore en développement, votre cerveau. Principalement, le lobe frontal, qui sont les capacités exécutives. Donc, ici, on parle de l'attention, la concentration, tout ce qui est très important quand on va à l'école, le jugement, des choses comme ça. Et quand on parle de chez les adolescents, c'est là que la période est vraiment critique parce que l'adolescent, c'est là que son cerveau devient adulte. Donc, chez les enfants, je ne veux pas rentrer dans des termes trop techniques, mais chez les enfants, il y a le double de synapses d'un adulte parce qu'il est en apprentissage. Puis à l'adolescence, pendant 2 ans, on a une diminution des synapses. Donc, on a un processus chimique dans la tête. Et si le jeune, 14-15 ans, va subir une commotion, il va être beaucoup plus lent à récupérer. Les ados sont beaucoup plus lents à récupérer que les enfants. Puis les adultes, c'est eux qui récupèrent le plus rapidement. Donc, dans votre cas à vous, un escrimeur, là, ben vous avez encore 22 ans. Donc, je pense que Dave vous a bien conseillé à ce moment-là, puisque votre cerveau est encore en développement, puis on ne prendra pas de chance. Là,
mais on voit que c'est long. Là.
Oui, exactement.
Non, c'est ça. Ouais. Puis tout à fait, sur le point de vue de l'âge, de la différence d'âge, moi, personnellement, quand j'ai été au secondaire, j'avais des amis qui jouaient au hockey, qui jouaient à la crosse, des sports de contact assez violents, Puis je vois la différence. T'sais, moi, j'ai eu des grosses commotions dans ma vingtaine. Eux, ils ont eu des grosses commotions vers 15, 16 ans. Et aujourd'hui, je vois l'effet que ça a sur eux.
Ils sont plus atteints que toi, finalement, Gilles.
Ben oui, bien sûr. Ils en ont eu une, deux. Ils en ont pas eu quatre comme moi.
Incroyable. Puis au hockey, par exemple. Le hockey, il y en a quand même beaucoup, là.
Énormément. Ben oui, le hockey, ça, un temps soit peu que tu te fais plaquer, puis tu rentres tête première dans la bande, ou tu tombes par terre, puis t'as un whiplash, un similaire coup du lapin. Ouais. C'est tout ce que ça prend pour avoir une commotion. Puis une fois que t'en as une, ben on le sait, t'es beaucoup plus affecté, t'es beaucoup plus trotté d'en avoir une autre.
Merci beaucoup, Djihad, de nous avoir parlé. Djihad de Cabas. Je prends rétablissement en tous les cas. Prends ton temps, puis bonne continuation. Ali Nestor.
Ça m'amène à poser une question à Philippe. Là, on vient de voir jusqu'à quel point que le cerveau peut se développer, donc jusqu'à à peu près la mi-vingtaine, 25 ans. Mm-hmm. Souvent, on se pose la question... À partir de quel âge qu'un boxeur ou quelqu'un qui pratique un sport de contact de niveau professionnel devrait se retirer? Donc là, on parle de dégradation. À partir de quel âge qu'on subit une espèce de dégradation?
Suite à une commotion, votre question?
Non. Exemple, j'ai eu aucune commotion cérébrale dans ma carrière.
Mais des coups répétés à la tête.
Des coups répétés quand même à la tête. Je fais un sport de combat. Là, j'arrive, je ne sais pas, à 35, 40 ans. À partir de quel âge que ça devient beaucoup plus risqué pour un athlète de recevoir des coups? Donc, est-ce qu'il devrait y penser vers 35 ans, 40 ans?
C'est bon comme question.
Il fut un temps, on disait qu'un boxeur, début trentaine, il devrait peut-être penser à prendre sa retraite.
Alors qu'il a donné sa 41 ans. Cette question-là.
Ouais. Et on parle beaucoup d'athlètes aussi. Exemple, Bernard Hopkins, qui a pris sa retraite aux alentours de 49, 50 ans. Donc, à quel âge qu'on devrait peut-être y penser à autre chose?
Je dirais que pour moi, c'est pas l'âge qui est important, c'est vraiment les temps de réaction, la capacité du cerveau, les capacités cognitives, comment le cerveau fonctionne. Donc, on peut avoir quelqu'un de 40 ans qui va avoir des temps de réaction très vifs, qui va avoir une bonne capacité cognitive, où j'aurais probablement aucun problème à ce qu'il continue à faire des activités à risque, versus quelqu'un de 26 ans, 27 ans, qui a subi plusieurs contacts, même s'il n'y a pas de commotion, mais ses temps de réaction sont ralentis. Puis ça prend pas un gros temps de réaction ralenti, là, juste un petit peu ralenti par rapport à la norme. Donc, il va réagir plus lentement. Puis ici, on parle de fractions de secondes. Donc, c'est pas l'âge qui est important. Oui, quand on va vieillir, on va avoir des temps de réaction qui vont ralentir, mais je pourrais pas vous dire 34, 35, 36.
Ça dépend vraiment de la capacité de dégradation. Est-ce qu'il y a un âge? On dit que justement, un jeune peut se développer jusqu'à 25 ans. Mais à partir de quel âge qu'on s'en va beaucoup plus vers la dégradation?
Mais le cerveau, ça ne dégrade pas. Là. C'est le cerveau.
Je suis content d'entendre
si on fait
ça.
De l'activité physique.
Parce qu'à un certain âge, on commence à perdre la mémoire, qu'on commence à perdre les réflexes.
Oui, mais c'est beaucoup plus vieux qu'on pense, Ali. C'est 75 plus. Là.
Savez-vous pourquoi? C'est parce que les gens commencent à être moins actifs. Et quand on est moins actif, le cerveau perd de ses capacités. Parce que le cerveau analyse, j'ai plus besoin d'autant de capacités parce que la personne est plus sédentaire.
Mais ça, je suis très contente qu'on parle de ça, puis ça mériterait qu'on en parle pendant une heure, même si on doit aller à la pause tout de suite. Mais parce qu'hier, on parlait d'emploi, puis il y a bien des gens qui me disaient 52, 55, 57, 58 ans, des gens là, qui me disent, moi, j'envoie des curriculum vitae, puis c'est à cause de mon âge qu'on m'engage pas, alors qu'on n'arrête pas de rabâcher là, qu'on est en plein emploi. Et l'âgisme, là, qui est assez palpable au Québec, c'est ce que vous venez de dire, Philippe, là. Faudrait qu'on le comprenne. Le cerveau ne se dégrade pas. T'es pas moins bon
boxeurs,
parce que t'es plus vieux.
On voit, nous, les journalistes, on fait des entrevues avec les boxeurs.
C'est autre chose,
mais que ce soit jeune ou plus vieux, c'est plus le nombre d'années que le gars fait de la boxe. On le voit, nous. On le sait. Il y a 5 ans, il était capable de me donner une entrevue. Aujourd'hui, il y a de la misère.
Oui, mais c'est à cause qu'il a mangé des coups à la tête. Mais une personne normale qui peut.
Mais peu importe l'âge. C'est ça que je veux dire. C'est peu importe l'âge.
C'était un éditorial contre l'âgisme. qu'on essaye de faire. On revient après la pause. On est en compagnie de mes invités que je vous représente, Jérémy Filosa, journaliste sportif au 98.5 FM. Ali Nestor est un ancien athlète professionnel, un spécialiste de boxe, entraîneur aujourd'hui en sport de combat. Philippe Fay est thérapeute du sport, spécialisé en commotion cérébrale. Il a fondé la clinique Cortex. Et justement, Philippe, on se demandait, est-ce qu'on se remet d'un chaos comme celui qu'a vécu Stevenson? S'il sort de son coma, finalement, est-ce qu'on lui souhaite? Est-ce qu'il peut espérer retrouver ses capacités?
Bien, c'est dur à dire actuellement parce que je ne connais pas l'état actuel de M. Stevenson, mais par contre, dans des cas semblables, il peut y avoir plusieurs trajectoires de guérison. Donc, il va y avoir des gens qui vont sortir du coma, qui vont récupérer presque à 100 % mm-hmm. en faisant différents exercices. Puis une très longue réadaptation avec beaucoup d'exercices puis beaucoup de vouloir. Il y en a d'autres qui vont rester avec des séquelles permanentes. Donc, ils peuvent avoir, ça peut se traduire par des séquelles cognitives. Donc, beaucoup de problèmes d'attention, de concentration, mais aussi des problèmes qui peuvent être physiques, comme des paralysies ou des paralysies juste d'un côté, par exemple. Tout dépendant d'où l'hémorragie est allée dans le cerveau, est allée appuyer sur quelle structure, structure du cerveau qui va contrôler quelle partie du corps.
Et parce que c'est ça, dans le fond, hein, Philippe, oui. Il faut bien que les gens comprennent, les gens posent des questions. C'est quoi, dans le fond, une commotion? C'est comme si, très façon simple de le dire, c'est comme si le cerveau saigne d'une certaine façon.
Bien, ça, une commotion, le cerveau ne va pas saigner. Ça, c'était avant même le saignement. Donc, une commotion, c'est un processus chimique qui va se produire. On appelle ça la cascade neurométabolique
ouais.
dans le cerveau. Ça va se produire dès qu'il y a un impact et qui provoque cette condition-là, qui va provoquer plein de problématiques, dont le flot sanguin qui va diminuer. Ça, c'est la première étape. Par la suite, si l'impact est assez grand, il peut avoir un saignement.
Là, donc, c'est ça, c'est l'hémorragie cérébrale.
L'hémorragie cérébrale. Puis là, la problématique, c'est que le sang, comme tantôt on le disait, le cerveau, il y a un espace de 3 mm entre le cerveau et la boîte crânienne.
Oui.
Ça, c'est chez tout le monde. Donc, le cerveau flotte dans la boîte crânienne. Donc, s'il y a un saignement, le sang ne peut pas aller ailleurs que dans la boîte crânienne. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus de place. Donc, il commence à compresser le cerveau. Là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la personne, on la met dans un coma artificiel pour ralentir ses signes vitaux. Puis même, dans certains cas, on va faire une trépanation, c'est-à-dire on va faire un trou dans la boîte crânienne.
Bien, c'est
ce qu'a vécu Stevenson.
Donc, on enlève le sang pour qu'il n'y ait plus de pression. Mais là, à ce moment-là, c'est de savoir, pendant qu'il y avait cette pression-là, quels ont été les dommages. On ne sait pas. Donc, quand il va se réveiller, on va voir les dommages à telle zone cérébrale. Par exemple, si c'est au lobe occipital, en arrière de la tête, il risque d'avoir des problèmes de vision.
Là, présentement, on nous dit qu'on va attendre au moins jusqu'à la fin de la semaine. Là.
C'est ça, mais je donne un exemple général. Donc, si ça a touché l'arrière de la tête, du cerveau, ça va être plus la vision qui va être touchée. Si c'est plus au niveau du tronc cérébral, par exemple, on peut avoir même des problèmes au niveau...
Moteur?
Moteur. On peut avoir des problèmes au niveau du rythme cardiaque, des choses comme ça. Donc, après ça, quand on trouve les déficits, là, on va avoir beaucoup d'exercices à faire en réadaptation intensive. Puis souvent, les gens qui sont plongés dans un coma comme ça, souvent, je ne dis pas dans toute la totalité des cas, mais souvent, quand ils en ressortent, même leur personnalité change ou c'est pas la même personne. Mmh. La famille dit, ben je ne le reconnais pas. Il a changé parce que le cerveau contrôle toutes nos fonctions. Puis là, il y a des fonctions qui ont été altérées. Donc souvent, on peut voir des altérations à ce niveau-là.
J'ai lu beaucoup, beaucoup d'articles sur des athlètes, justement, qui ont été affectés à long terme par des commotions cérébrales, des joueurs de tous les sports. Je me souviens d'avoir lu, il y a une couple d'années, dans le Pittsburgh Post Gazette, un article, c'était le joueur Antoine Randall des Steelers qui a dû prendre sa retraite à cause de problèmes de commotion cérébrale. Mmh. Et il dit dans l'article, il dit, jouer au football de la NFL, c'est comme être impliqué dans un accident de la circulation une fois par semaine. Fait que
En fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que à l'univers, parce qu'en plus d'être fondateur de la clinique Cortex, je suis aussi chercheur et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mm. Et en collaboration avec l'Université d'Ottawa, ils ont reproduit les coûts, les impacts de la NFL. Puis c'est exactement comme des accidents de voiture. C'est le même impact qu'un accident de voiture.
Exact.
Donc à chaque match, ils vont subir des accidents de voiture.
Bon, t'as été chanceux, Ali. Beaucoup de matchs de boxe, zéro commotion. C'est quoi ton truc?
Ben, je pense qu'il y a un mode de vie qui va avec ça aussi. Ouais. Donc, l'athlète doit faire en sorte de se prévenir contre ces choses-là aussi.
Ouais. D'être conscient. Son entourage.
Tu sais, on écoute Bernard Hopkins parler, qui a pris sa retraite à 50 ans, puis tu te dis, coudonc, ce gars-là, il a livré... presque une centaine de combats, puis il s'exprime bien, il n'a pas l'air d'être affecté, sauf que lui, c'était un maître dans l'art de se défendre et de se
exactement,
protéger.
D'éviter de recevoir des coups, effectivement. Mais aussi, il avait l'espèce de mode de vie qui allait avec ça aussi. Donc, il y a un mode de vie à l'intérieur du gymnase et un mode de vie à l'extérieur du gymnase.
Moi, je l'ai vu boxer, Ali, là. Ça, c'est... Mais... Tu touches pas sa tête, c'est sûr.
Ça dépend de la définition de la commotion aussi. Ouais. Je connais des entraîneurs de boxe qui me disent... La lumière se ferme, se rallume comme une télévision. Est-ce que c'est une commotion? Peut-être que oui.
Merci beaucoup. On va souhaiter qu'il y ait une plus grande prise de conscience, c'est sûr, à force d'en discuter. Philippe Fay, thérapeute spécialiste en commotion cérébrale. Jérémy Fulosa, bien sûr, merci d'être là. Ali Nestor, merci infiniment d'avoir été là tous les trois. On se retrouve après les nouvelles. On va parler de Netflix. À tout de suite, tout le monde.